une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
Pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
C'est un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette année, je me suis entouré d'une team de journalistes éco pour décortiquer avec moi encore plus de sujets. Aujourd'hui, je vais laisser la parole à Cathy Dogon, qui travaille pour le magazine de pédagogie économique Pour l'Éco. Salut Cathy.
Bonjour Emmanuel.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de gourous, des copains de Tom Cruise et de pièges abscons.
Tu t'es déjà retrouvé dans un endroit très confortable, où les gens te ressemblent, tu partages les mêmes valeurs et peu à peu les mêmes modes de vie. Tu y trouves un sens et tu te sens valorisé. Cet endroit est tellement confortable que tu y passes de plus en plus de temps et que tu dédies de moins en moins de temps à ta famille ou à tes amis de toujours. L'appartenance à un groupe commence toujours comme ça, et s'ensuit parfois de dérives. Elles peuvent être sociales, sexuelles, familiales et économiques. Par extension, on dit qu'elles sont sectaires. Définir une secte, c'est pas facile. Surtout, étiqueter certains groupes comme sectaires participe à les exclure, à les marginaliser hors de la société, alors que le phénomène est plus complexe, moins net. Les conséquences n'en sont pas moins graves pour autant. Le nombre de saisines enregistrées par la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, a augmenté d'un tiers en un an, selon son dernier rapport annuel publié en octobre 2022. Un phénomène si important que Beauvau a décidé d'organiser les 9 et 10 mars les premières assises nationales de lutte contre les dérives sectaires. De la crypto-monnaie à l'écologie, en passant par la santé, tous les milieux sont concernés. Et le mécanisme psychologique à l'œuvre est sensiblement toujours le même. Intentionnellement ou non, cette emprise peut rapporter gros à celui ou celle qui la met en place. Mais alors, comment les sectes s'en mettent plein les fouilles ?
Commençons par le commencement. C'est quoi une secte ?
D'après la psychologue et psychanalyste Delphine Guérard, une secte c'est un leader infaillible et doté de tous les pouvoirs, un groupe constitué d'adeptes et des techniques qui altèrent l'esprit critique, la pensée et même l'identité des victimes. Mais d'après Nathalie Lucas, cette définition de la secte est très française. Elle est anthropologue au CNRS et dirige le Centre d'études en sciences sociales du religieux de l'EHESS. Elle a été membre du conseil d'orientation de la Miviludes, mais a démissionné en 2005 pour désaccord idéologique et sémantique.
La laïcité, l'impossibilité d'avoir une dimension économique pour un service spirituel, et puis la liberté de penser, ces trois niveaux qui font qu'en France, on dit très facilement qu'un groupe est une secte.
Ce qui nous intéresse, nous, particulièrement dans cet épisode, c'est l'aspect économique des sectes. Mais très peu d'études ont été réalisées sur le sujet.
L'économie, c'est à l'extérieur du religieux. On n'a pas le droit de faire payer les biens symboliques. Pourquoi ? Parce qu'en France, à un moment, il y a eu les indulgences dans l'Église catholique qui ont été extrêmement critiquées. On faisait payer très cher les moindres péchés. On leur disait, ça va vous coûter tant. Donc ça s'appelle les indulgences. Ça a même créé le protestantisme. Donc si vous voulez, les indulgences, ça a été quand même une énorme épine dans la chaussure du catholicisme. Et du coup, tout ce qui est lié au religieux ne doit rien coûter. Or, c'est une spécificité française. Dans beaucoup de pays, le religieux, il est payant. C'est un service spirituel, comme vous avez un service thérapeutique, comme vous avez tout ce que vous voulez, un service pour le sport. Un service spirituel, c'est payant. Et même plus vous montrez que vous avez réussi économiquement, plus ça prouve que vous êtes dans la bonne direction spirituelle. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait qu'en France, ça marche pas.
On va revenir plus précisément sur la définition de bien spirituel. Mais d'abord, qui sont les adeptes ? Ceux qui, en France, acceptent de payer pour ces services.
Et est-ce que les adeptes correspondent à un profil type ?
Toujours d'après la psychologue et psychanalyste Delphine Guérard, oui, il y a trois profils. Ceux qui ont besoin d'être pris en charge et recherchent des groupes très structurés, potentiellement sectaires. Ceux qui ont déjà subi une emprise durant leur enfance et n'identifient pas la violence de telles pratiques, car elles ont déjà vécu quelque chose de similaire. Ceux qui viennent de vivre un événement tragique et cherchent une aide dans un état de vulnérabilité propice à l'emprise. En 2020, la Miviludes comptait 140 000 personnes sous emprise sectaire en France et 500 micro-groupes. Un chiffre sous-estimé selon l'Union nationale des associations de défense des familles et des individus victimes de sectes. Femmes, hommes, riches, pauvres, tout le monde est concerné. La crédulité, c'est-à-dire la trop grande facilité à croire quelqu'un ou quelque chose, a été étudiée par Daniel Bois et Guy Michelin. Elle est reportée par Charles-Henri Cuin dans son livre « Sociologie des croyances et de la foi » paru en juillet dernier. Les femmes croient plus à l'astrologie que les hommes, les jeunes croient plus au paranormal que les vieux, les classes supérieures et moyennes croient plus aux parasciences que les classes populaires. Nathalie Lucas.
Tout peut se refermer. Il n'y a pas de classe sociale particulière là-dedans. Simplement, n'importe qui ne va pas dans n'importe quel groupe. Ça va dépendre de la philosophie qui est donnée. Par exemple, la fameuse secte Moon, qui a eu un très grand succès pendant la guerre froide, parce que c'était vraiment un groupe qui donnait du sens à la guerre froide. Ça n'a touché au début que les intellectuels, que les classes sociales supérieures. Si vous avez, vous êtes dans un milieu effectivement où les difficultés sociales sont très grandes, vous irez plus facilement chez les témoins de Jéhovah. Parce que là, vous trouverez un encadrement, une chaleur, quelque chose qui va pouvoir vous accompagner. Qu'est-ce que vous cherchez? Dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez? Je vous dirai dans quel type de groupe vous risquez d'aller. Et puis, dis-moi quel type d'éducation vous avez eu et je vous dirai jusqu'où vous êtes capable d'aller.
Justement, jusqu'où un adepte est-il capable d'aller? Quels sont les mécanismes psychologiques à l'œuvre?
Ça peut être tout à fait par hasard. Pour le coup, l'adhésion en premier peut être tout à fait par hasard. Vous rencontrez quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Tout commence de toute manière par une rencontre qui a des croyances et qui les partage avec vous. Et ces croyances, elles vous touchent. Et finalement, vous allez y croire. C'est le premier moment. Donc du coup, vous allez avoir envie d'aller avec ces gens qui y croient, avec qui vous partagez ces croyances. Et ça peut être des croyances qui posent aucun problème. Vous allez adhérer à un autre groupe et vous allez commencer à avoir des réunions avec cet autre groupe. Même si ce groupe, justement, il n'est pas sectaire, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous n'allez plus faire ce que vous faisiez avant. Et du coup, les gens avec qui vous étiez avant, ils ne vous reconnaissent plus. Et c'est un souci.
Un souci parce que vous vous fermez de votre cercle familial et avec lui de votre esprit critique. Vous devenez plus vulnérable, plus influençable. Et il est plus facile pour un gourou d'installer son emprise et éventuellement de vous soutirer de l'argent. J'emploie le terme gourou parce que c'est celui utilisé par la Mivilude.
Mais justement, qu'est-ce qu'un gourou? Est-ce qu'il se construit lui-même avec l'intention d'asservir un groupe ou est-ce qu'on devient gourou par la force des choses?
Nathalie Lucas prend l'exemple de l'église de la Providence qu'elle a infiltrée.
C'est un dérivé de l'église de l'unification qui est la fameuse secte Moon. Et en fait, le messie en question, il appartenait à la secte Moon, donc à l'église de l'unification. Puis un jour, en enseignant la doctrine à des jeunes, les jeunes lui ont dit « mais c'est toi le messie ». Et finalement, il a eu envie d'y croire. C'est comme ça que cette église-là a commencé. Pourquoi? Parce qu'il correspondait plus à ce dont ces jeunes avaient besoin. Vous n'avez pas de gourou s'il ne répond pas à un besoin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ce qu'il propose, dans sa façon d'être, dans ce qu'il représente, qui correspond à un besoin et qui font que les gens vont aller le chercher et en faire un gourou. Ça se fait ensemble, ça se fait pas isolément. Je ne pourrais pas venir vous voir et vous dire « maintenant je suis un gourou, je vais t'influencer, j'y arriverai pas ». Ça marche pas comme ça. C'est parce que vous allez trouver quelque chose en moi. Ah ouais. Et du coup, je vais être moi-même nourrie par ça. Et ça va pouvoir me rendre manipulatrice ou je ne sais quoi encore. Voilà comment ça marche. Mais ça marche à deux et ça marche avec un groupe. Ça marche pas tout seul.
On a donc identifié un environnement avec un groupe et un gourou, mais comment est-ce qu'on passe du cercle social à la pratique spirituelle, à l'action, à l'engagement, à l'implication financière?
Charles-Henri Cuin évoque deux niveaux, dans le cas où la conduite de l'adepte relèverait d'une démarche rationnelle. Croire qu'il existe des fins, des objectifs désirables, et croire que certains moyens, certains rites par exemple, permettent d'atteindre ces fins. Dans d'autres cas, la conduite de l'adepte dépend de traditions acquises au cours de la socialisation, ou encore d'une causalité psycho-affective. À ce propos, l'économiste Vilfredo Pareto disait en 1906 que les croyances ne sont pas à l'origine des conduites, mais sont plutôt leurs conséquences. Selon lui, il y a deux possibilités. Je cite. Premièrement, les hommes croient certaines choses parce qu'ils agissent d'une certaine façon. Deuxièmement, les hommes agissent d'une certaine façon parce qu'ils croient certaines choses. Je cite toujours. Et comme les hommes aiment donner un vernis logique à leurs actions, ils s'imaginent que cette dernière proposition représente la vérité. Dernièrement, on observe une mouvance particulière qui vérifie cette théorie. La religion n'est plus l'apanage d'institutions internationales, mais de petits indépendants qui vendent des biens et des services spirituels à l'unité, comme des retraites de méditation, des packages de conseils et de développement personnel, ou des bilans de santé dans la naturopathie. Un phénomène qui s'est accru depuis la crise du coronavirus. On parle même d'ubérisation de la spiritualité. Alors que l'adepte a l'impression d'acheter une fois un service, il entre en fait doucement dans un engrenage. Ces services intègrent une part de conseil et d'écoute qui le valorise, dans un premier temps, lui donne de l'espoir. Mais rapidement, on le rappelle pour l'inviter à consommer de nouveau, et le consommateur devient dépendant. Cette vente de prestations, et la dépendance qu'elle génère rapidement, est très bien racontée dans la bande dessinée sur la scientologie, La secte, de Patrice Guillon et Louis Alloin. Une fois qu'on a payé une ou deux fois, trois fois, on a envie d'y croire et d'investir plus pour que ça marche. Pour se soigner ou pour devenir une meilleure personne.
J'ai besoin que vous me disiez que je suis un type bien.
En économie et en psychologie cognitive, on parle de piège abscon, une situation irrationnelle dans laquelle on continue d'investir à perte, pensant que chaque nouvel investissement permettra de rattraper les pertes précédentes. Pour nous expliquer, Nathalie Lucas prend l'exemple du mouvement pentecôtiste en Amérique latine.
Certaines de ces formes de pentecôtistes ont un rapport à l'argent très particulier, mais n'empêche que du coup, en investissant dans votre église, il y a des choses que vous ne faites plus. c'est un petit peu comme aller voir un psychologue ou quand vous payez, vous avez quand même besoin que les choses bougent après. Vous allez avoir envie d'engager votre argent là-dedans, un petit peu comme un investissement, en vous disant, bah tiens, là, elle est super belle, cette église. Si j'investis sur ce pasteur, là, je vais avoir une transformation. Ça marche pas. Mais le fait est que ça marche un peu parce que, justement, ça change quelque chose dans votre propre psychologie.
Selon une étude ethnographique réalisée par l'anthropologue Livia Fialio d'Acosta en 2011, les classes populaires sud-américaines adhèrent à l'église de la Pentecôte pour ses discours sur la possibilité, voire même la potentialité. Chaque fidèle peut changer son destin dès lors qu'il emploie les moyens adéquats. Le message spirituel de ce mouvement est particulièrement favorable à l'esprit d'entreprise. Au-delà de l'aspect économique, les règles auxquelles doivent se plier les fidèles interdisent tout comportement contraire aux valeurs religieuses, comme la violence, l'infidélité, l'usage de drogue, sous peine que les miracles ne se produisent pas.
Vous avez investi dans ce bien spirituel et vous vous dites, ben maintenant, il faut que ça bouge quand même. Et vous allez y arriver parce que du coup, vous avez aussi investi dans un collectif qui va vous aider, qui va vous encadrer aussi, qui va vous dire, ben non, là, faut pas que tu boives. Ah non, mais il faut pas que tu fumes. Ah non, mais là, faut que tu t'habilles correctement. Ben voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Mais un bien spirituel, c'est donc un bien qui n'est pas palpable.
Mais alors, est-ce que cet investissement est toujours problématique? Un adepte ne peut-il pas retirer un intérêt positif, à l'achat d'un bien spirituel?
D'après Nathalie Lucas, si. Elle prend l'exemple de la scientologie, prenant le retour à la véritable nature de l'être humain et de sa place dans l'univers.
Il est dit que la scientologie, ça coûte cher. Alors par contre, je suis allée interviewer des scientologues. Je leur ai dit, mais quand même, vous avez mis combien d'argent? Je dis, ben ouais, j'ai mis de l'argent dans la scientologie, mais le mec qui s'achète une Porsche, là, vous trouvez que lui, il a bien placé son argent? Et moi, sous prétexte que je le place pour mon bien-être spirituel, eh ben c'est mal placé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben moi, je réponds rien. Je me dis qu'effectivement, une Porsche, c'est peut-être pas plus utile qu'autre chose. Et qu'au fond, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'il reconnaisse que donc il le fait sans être victime. Il a conscience du coup, il sait ce qu'il fait, qu'il vienne pas après quand il sort me dire j'ai été manipulé, parce que je lui dirais alors à telle date, on a fait cette interview quand même. Et vous m'avez dit que vous trouviez mieux d'investir là-dedans que dans autre chose. Ben c'est vrai, quand on achète une Porsche, on peut aussi être déçu après. Hein.
Arrêtons-nous un instant sur ce point. Acheter une Porsche ou donner beaucoup d'argent à un groupe spirituel, est-ce vraiment la même chose?
Ensuite, je mets le contact et j'appuie sur le bouton rouge. Ah, c'est... Ça ne laisse pas indifférent.
La spiritualité est-elle un bien comme les autres qu'on achète en toute conscience? N'y a-t-il pas particulièrement un phénomène d'emprise et d'influence de la part du groupe qui trouble la capacité de discernement du consommateur? Nathalie Lucas tend à responsabiliser les adeptes.
Très honnêtement, dès lors que je rentre dans un magasin, je suis influencée. Plus c'est cher, plus je suis influencée, plus j'ai besoin qu'on me dise que ça me va bien, plus j'ai besoin qu'on me dise que c'est... C'est tout le temps comme ça. Quand il y a un bien économique, il y a une publicité derrière. Les biens spirituels à l'américaine sont des biens économiques. Et je crois que c'est ça qui est difficile d'avoir en tête. Et personne ne peut savoir si un bien spirituel est bon pour moi ou pas, mais si quand je l'ai consommé, ce qui est le cas de mes interviewés, que je dis « j'ai consommé ce bien spirituel, il m'a fait du bien, et c'est pourquoi j'en achète un autre, parce que ces biens me font du bien », si, ben, il est peut-être manipulé, mais il voit le résultat. Il y a pas d'économie sans croyance. C'est le point où il y a de l'économie, il y a forcément de la croyance. Si vous ne croyez pas, vous n'investissez pas.
La spiritualité serait donc une industrie comme les autres, pour laquelle il y a des besoins, de l'offre et de la demande, des prix fixés, des multinationales et des indépendants.
Mais alors, combien représente ce marché? Combien ces biens spirituels peuvent-ils rapporter?
Nathalie Lucas.
On est incapable de savoir ça, mais des fois, ça coûte très cher.
Comme il n'y a pas d'étude globale, intéressons-nous à plusieurs cas particuliers. Thierry Casasnovas est naturopathe. La Mivilude juge ses diverses activités très lucratives et a reçu plusieurs signalements à son sujet. Cure de jouvence, physio, vieillir en santé, hygiénisme, iridologie, amour des enfants et permaculture sont autant de formations que Thierry Casasnovas propose en ligne pour 200 à 500 euros. Il organise aussi des week-ends à 350 euros et vend des produits dérivés comme des extracteurs de jus à 300 euros ou des magazines à 20 euros. Ces pratiques sont courantes au sein de la naturopathie. Certaines ne posent pas de problème, mais dans certains cas, les professionnels prétendent pouvoir se substituer à la médecine traditionnelle et préconisent à leurs patients de se couper de leurs soins conventionnels. Depuis le Covid, ce type de dérive évolue de manière exponentielle. Les dérives sectaires ont aussi beaucoup évolué en ligne, autour de personnages très actifs sur la toile. Des saisines à l'encontre de Jean-Marie Corda sont remontées à la Mivilude de la part de parents inquiets de son influence sur des jeunes hommes entre 17 et 28 ans. Jean-Marie Corda a conçu un programme de développement personnel, le Domination by Love, le DBL, dans lequel il enseigne aux internautes des techniques de manipulation pour réussir socialement.
Un champion du monde.
Il développe également une activité de vente multiniveau. Jean-Marie Corda promet à ces jeunes hommes de gagner d'importantes sommes d'argent rapidement en s'abonnant à ses conseils pour 30 euros par mois. Les membres du groupe DBL doivent payer 25 euros en plus chaque mois pour bénéficier de ses conseils quotidiens de placement en crypto-monnaie. Jean-Marie Corda aurait mis en place une crypto-factory, c'est-à-dire une usine de crypto-monnaie, et lancerait plusieurs cryptos, dont le Chaecoin et plus récemment le Gucci Cake. Il incite aussi à l'expatriation dans les pays de l'Est pour leur fiscalité avantageuse. Les témoignages adressés à la Miviludes évoquent des ruptures avec l'environnement social et familial, des sollicitations de sommes exorbitantes en contrepartie de promesses d'une réussite sociale et de gains rapides. Parce que le gourou a intérêt à ce que ses adeptes réussissent socialement, à ce qu'ils continuent à travailler ou à réaliser justement ces gains rapides, pour que le groupe prospère. Le repli sur le groupe, l'isolement, n'est pas pérenne à long terme pour le gourou. Nathalie Lucas.
Parce que si vous cherchez à tout prix à vous faire du fric, à tout prix, hein, vous avez intérêt de laisser l'autre trouver les moyens de se faire du fric dans la société quelque part. Parce que sinon, je vois pas comment, si on est dans un entre-soi, une fois que les gens, dans cet entre-soi qui sera jamais très grand quand même, ont donné tout leur fric, ben il y a un moment où ça va se tarir. Si on veut pas que ça se tarisse, eh ben il faut bien qu'il y ait des ouvertures. Donc déjà, les dérives économiques, c'est pas forcément très sectaire en réalité.
Un cas récent pourrait justement répondre à la définition très précise de dérives économiques sectaires évoquée par Nathalie Lucas, dans le sens où le groupe prévoirait de se replier sur lui-même. Le projet fondé par Alice Paz-Almar, One Nation, visait l'autosuffisance au sein d'un, je cite, « réseau de villages, un lieu de vie communautaire sous la forme d'oasis baignant dans une interdépendance harmonieuse avec le vivant, peuplé d'êtres souverains ». Mais qui dit autosuffisance dit « couper les échanges extérieurs avec la société ». C'est là, et seulement là, que l'on entre dans les dérives sectaires économiques, selon Nathalie Lucas. Derrière le statut d'association, One Nation a lancé une campagne de financement participatif pour acheter un domaine de 200 hectares dans le Lot. Mais après avoir récolté plus de 260 000 euros, des élus locaux se sont mobilisés et ont obtenu de la plateforme et l'OASO la suspension de la cagnotte. La Miviludes voyait dans ce projet la création d'îlots exempts des lois et des règlements de la République, s'inscrivant dans un projet à caractère séparatiste. Intéressant donc de voir le glissement entre une utopie et un projet à caractère séparatistes. On a parlé ici de vente de prestations, de coaching, d'organisation de retraite, de l'élaboration de plans de santé dans la naturopathie, de l'ouverture de cagnottes pour créer une utopie. Mais il existe une multitude d'autres modèles économiques. Les dons, évidemment, la dîme du temple du peuple, le financement des écoles primaires Steiner, les ventes pyramidales, du travail non rémunéré dans la scientologie, par exemple, la patrimonialisation du chamanisme en Corée. Si le modèle économique des mouvements religieux vous intéresse, Splash a déjà fait un épisode à ce sujet, il s'appelle « Les moines sont-ils pétés de thunes ?». Le souci, c'est que l'économie s'est assez peu intéressée aux religieux, contrairement à la sociologie, qui a largement investi ce champ. On l'a dit, on connaît mal les sommes en jeu et on a même du mal à identifier le nombre de personnes sous emprise. L'organisme chargé de recenser et limiter les effets indésirables des sectes, la Miviludes, est malmené. Ses effectifs fluctuent entre 8 et 15 personnes seulement, ses financements risquent régulièrement d'être coupés, l'institution passe d'un ministère à l'autre et des polémiques régulières génèrent un gros turnover à la direction. Anen Romdan, la dernière chef de la mission, a remis sa démission en décembre après un an et demi d'exercice. Donatien Levaillant reprend ses fonctions après sa nomination par Sonia Bakès, secrétaire d'État à la citoyenneté. Mais ses missions peinent à se pérenniser, ce qui ne permet pas l'étude et une gestion efficace des dérives sectaires.
Merci Cathy pour cet épisode qui laisse encore ouverte la question de la transparence du financement des groupes sectaires. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast de nouvelles écoutes, écrit et animé par moi, Cathy Dogon, en compagnie d'Emmanuel Martin, prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio, réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jonin, produit par Julien Neuville, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice des productions Marion Gourdon, directrice artistique Aurore Mailleux, chargée de production Mathilde Jonin, avec l'aide de Neila Acmi.